Bonsoir à toutes et à tous, et bien c'est l'heure de l'Opus Festival depuis l'hôtel Le Maréchal de Colmar, générique.
Opus Festival international de musique de Colmar, hommage à Evgeny Kissine. Une émission d'Accent 4, en partenariat avec le Festival international de musique de Colmar, et avec le soutien du CICEST Tarpège Armand Meyer et de l'hôtel Le Maréchal de Colmar.
Merci d'être fidèle à Accent 4, partenaire du Festival de musique de Colmar. Aujourd'hui, je reçois les membres du Quatuor Ciné nominé et Jean-François Gviner du CIC Est, partenaire du Festival de musique de Colmar, mais aussi partenaire fidèle d'Accent 4. Merci à vous tous d'avoir accepté cette invitation. Vous vous interrogez sans doute sur les concerts de cette journée du 10 juillet. Eh bien, à 21h à l'église Saint-Mathieu, les musiciens de l'Orchestre Philharmonique National, l'Orchestre National Philharmonique de Russie, et Vladimir Spivakov accueillent le pianiste Denis Matsouyev au programme le 3e concerto pour piano de Beethoven et la Rhapsody in Blue de George Gershwin dans une adaptation associant contrebasse et percussion. Ce concert est d'ailleurs soutenu par le CICS et nous aurons l'occasion d'y revenir avec Jean-François Gviner. À l'heure où sera diffusée cette émission, eh bien le Quatuor Ciné nominé sera à la Chapelle Saint-Pierre en compagnie de la pianiste Sofia Gubaldamova. Voilà, nous écoutions Sofia Gubaldamova interpréter le Scherzino, extrait des six pièces opus 41 d'Erne von Dornani, 1877-1960. J'avais accueilli ici même à ce micro l'année passée Sofia Gubaldamova. Aujourd'hui, eh bien, elle n'est pas présente, mais elle le sera tout à l'heure avec les membres du Quatuor Ciné nominé, Patrick Genet et François Gautreau violon, Hans Egidi alto et Marc Yerman violoncelle. Ce sont donc les membres du Quatuor Ciné nominé. On va parler un petit peu de ce compositeur peu connu, Erne von Dornani, qui est un contemporain de Bartok et de Brahms, et donc beaucoup moins de Kodály, pardon, et de Bartok, un compositeur beaucoup moins connu que Hans.
Ouais, plus conservateur, on dirait, c'est-à-dire c'est un compositeur post-romantique encore. Et en même temps, si on voit la biographie de Dernoni ou de Bartakoulaï aussi, on voyait qu'ils étaient un bon, très bon rapport et puis que s'estimaient réciproquement. Parce que tout simplement, je crois, les deux estimaient le savoir-faire de l'autre. Et Dornani, c'est tout simplement un compositeur un peu oublié, il ne s'est pas mis en avant, ce n'était pas un avant-gardiste. Mais justement, dans une répétition récemment, on a discuté du côté un peu, peut-être, un peu tardif, et est-ce que c'est forcément dans ce sens-là que c'est des gens qui n'aient pas l'imagination, qui récrivent seulement les choses qui ont déjà bien fonctionné. Mais dans ce sens-là, on doit dire que c'est un compositeur qui est plein d'imagination et qui savait être très, très, très bien écrire. Et puis si on cherche des références, c'est pas du Strauss, c'est pas du Mahler, c'est pas non plus un mélange entre tout. On reconnaît bien sûr, tout d'un coup on a des associations comme ça, mais c'est quand même, c'est plus complexe que ça, et ça veut dire que c'est vraiment un créateur individuel.
C'était aussi un compositeur qui était apprécié par Brahms, puisque Brahms a fortement contribué à faire en sorte que son premier quintet pour piano et cordes soit joué, Patrick.
Alors certainement, c'est une musique qui est très, très proche de Brahms à ce niveau-là, au niveau de ce romantisme extrême qui est beaucoup axé sur l'écriture du piano, évidemment, comme très souvent à cette époque. Et puis cette écriture qui est en robe, qui donne vraiment une matière sonore magnifique, je veux dire, très inspirante, d'autant plus inspirante quand la partie de piano est tenue par des pianistes de la qualité de Sofia.
C'est la première fois que vous jouez avec elle ou vous avez déjà eu
l'occasion
de collaborer ?
Non, on a déjà joué avec elle depuis à peu près deux, trois ans. On avait fait une première expérience avec le quintet de Brahms, justement, à Budapest. Et on l'a retrouvé pour des concerts en Suisse, plus récemment.
Et vous jouerez ce soir, donc à 18h15, vous jouerez le deuxième quintet qui a une structure un peu particulière. On l'associe à Schoenberg. Vous êtes d'accord, François ?
Je ne sais pas. En tout cas, c'est très, très bien écrit. Il y a des thèmes qui sont d'un bout à l'autre de l'œuvre. Très, très lyrique. Il s'est amusé vraiment à faire ses thèmes. Il les a augmentés, réduits. C'est très savant. Puis en même temps, c'est très bien fait. Donc, je crois qu'on passe avec... On écoute ses thèmes très lyriques avec beaucoup de plaisir. Alors, c'est vrai que c'est assez... Il est assez concis, en trois mouvements, avec des grandes envolées, des endroits très, très intimes, très, très calmes. Et je pense que ça s'entend très, très bien. C'est vraiment... C'est de la musique qui est vraiment... qui est assez inconnue. Et on se demande pourquoi, parce qu'il a aussi fait trois quatuors, je crois. On en a fait un qui est vraiment très complexe, déjà à jouer, très difficile. Et vraiment... en tout cas, chaque fois qu'on travaille ce quintet numéro 2, chaque fois, on découvre d'autres choses.
Marc, le quintet est composé en 1914 et on pressent quand même les soubresauts du premier conflit à venir.
Alors ça, c'est difficile de dire, je ne sais pas, peut-être qu'on peut... On imagine beaucoup de choses en entendant une œuvre. Ce que je peux dire, en tout cas, de cette œuvre, c'est qu'elle a du point de vue formel, je trouve que c'est très rare d'arriver à un tel équilibre, et notamment... Le mouvement central, qui est un scherzo, un peu, disons, qui a un côté intermezzo aussi, qui a une forme mais absolument remarquable. C'est extraordinaire, que ça passe très vite. Il y a beaucoup de choses qui sont là. Peut-être qu'on peut poser peut-être au conflit de la Première Guerre par rapport à une harmonie qui est des fois très tendue. Il y a beaucoup de tensions, mais... C'est pas une... Je trouve que la détente est là aussi. Non, moi, je n'associerais pas du tout cette œuvre à quelque chose de profondément, disons, douloureux ou pas du tout. Non, je dois dire que non. Mais peut-être qu'on peut le voir sous un autre angle.
C'est ce que certains musicologues semblent voir dans cette musique. Alors, en deuxième partie, vous jouerez le quintet opus 34 de Brahms. C'est une association sans doute un peu évidente, Hans ?
Oui, non, encore une fois, c'est-à-dire, pour ainsi dire, dans l'histoire, Brahms a quasiment pistonné Dornani. C'était quelqu'un qui était très influents à l'époque. Il était dans tous les jurys, dans ceux qui donnaient les bourses. Et puis, il a, pour ainsi dire, il a flashé pour cette pièce. C'est, je crois, c'était en 95, juste avant sa mort. Et puis, Brahms était, je crois, très soucieux. Une continuité de ses idées, c'était... Et puis autour de lui, des élèves, c'était des gens quand même moins inventifs que Dornani. Et puis, malgré tout aussi, il appréciait peut-être quelqu'un dans un certain qui refait un peu, qui recolle cette fissure entre les Brahmsiens et puis les Wagneriens, comme l'a fait Schoenberg, comme l'a fait Reger. C'est cette jeune génération qui arrivait, qui quand même essayait de trouver un lien entre le chromatisme wagnerien, l'harmonie, invention harmonique, et puis les travaux motiviques, comme Schoenberg l'a fait un peu dans La Nuit Transfigurée. Et je crois qu'il a apprécié qu'il y ait de la jeune génération qui écrivait quand même la musique de chambre, la musique absolue, la musique sans trop chargée au niveau idéologique. Et puis ça le plaisait, je crois.
Mmh. Hier, on rappelait avec Romain Descharmes et Pierre Fouchenret que l'ombre de Beethoven avait inhibé d'une certaine manière Brahms pendant ses premières années, puisque sa première composition pour violon et piano il a 46 ans lorsqu'il compose sa première composition pour violon et piano, 40 ans pour sa première symphonie. Est-ce que Brahms a aussi inhibé certains compositeurs, ses successeurs?
Ouh, c'est compliqué comme question, parce qu'en même temps, c'était quand même, il me semble que Brahms était moins canonique que Beethoven. Quand même, il était moins... C'était un compositeur qui n'avait pas mis cette poids dans les symphonies, dans les quatuors à cordes. Effectivement, Brahms était extrêmement inhibé. Mais là, c'était quand même la création artistique à la fin du 19e siècle. C'était comme une explosion partout, surtout à Paris, à Vienne. Et puis... je pense tout le monde allait dans son sens. Non, je sais pas. Mais effectivement, il y avait aussi Brahms. Elle aimait bien, je crois, se plaire en même temps de celui qui de quelqu'un qui finit une époque. Je crois que ça lui plaisait. C'était ce... mais en même temps, elle aimait bien les jeunes. Je crois que l'éclosion de Brahms à l'époque à Vienne, c'était, je crois, Dornani et Zemlinsky aussi. C'était les deux qui lui plaisaient le plus, je crois.
Eh bien, on va vous écouter, non pas dans un extrait du quintet de Dornani que vous n'avez pas encore enregistré, mais on va vous écouter dans le deuxième mouvement du premier sextuor à cordes de Brahms. Et cette musique va sans doute dire quelque chose à notre autre invité, Jean-François Gwiner.
Thank you.
Voilà, nous écoutions l'Andante ma moderato du sextuor numéro 1 en si bémol majeur opus 18 de Johannes Brahms par le quatuor ciné nominé Nicolas Pache alto et François Guy violoncelle. Jean-François Guiner, vous êtes cinéphile et cette musique vous rappelait un film.
Je crois un film de 1958 de Louis Malle, Les Amants, si j'ai bonne mémoire.
Je vous crois sur parole. D'ailleurs, quel rapport entretenez-vous avec la musique, Jean-François ?
J'essaye je suis assez éclectique, donc j'écoute un petit peu de tout. Je suis assez fasciné par ce que tous les artistes, la passion que vous y mettez justement dans la musique. Ma femme est prof d'art plastique, donc elle met la même émotion, je trouve, quand elle analyse des tableaux, quand elle me les explique, puisque moi, en étant banquier très cartésien, il y a des choses qui me dépassent un peu, et là, quand je vois tout ce que vous avez pu analyser dans le morceau et tout ce que vous échangez, moi, ça me fascine. Je trouve ça impressionnant de voir comment vous arrivez à se ressentir et dégager toutes ces choses-là.
De quelle manière vous avez réentendu ce deuxième mouvement du sextuor, Hans?
Bon, c'est toujours une épreuve, bien sûr. Les disques qu'on fait, en général, on les met chez nous dans les rayons, on ne les écoute plus. Mais de temps à autre, on est quand même certaines choses, c'est quand même pas mal. Mais effectivement, probablement, quand est-ce qu'on a enregistré ça, il y a 4-5 ans, peut-être on a changé l'option sur 2-3 choses. On le trouve un peu rapide, là, on s'est dit, on vieillit, voilà. On ne sait pas.
Jean-François parlait de son éclectisme musical. Vous aussi, vous écoutez autre chose que de la musique classique ?
Oui, ça m'arrive d'écouter d'autres choses, mais il n'y a pas que la musique non plus dans la vie, donc il y a beaucoup de... je réponds quand même à la question. Non, mais il y a beaucoup de choses tellement intéressantes à faire aussi, mais c'est vrai que la musique, alors... c'est vrai qu'il y a beaucoup de musique. Je suis quand même relativement classique. C'est vrai que la musique acoustique me touche quand même toujours un peu plus. C'est vrai que un bon jazz acoustique, ça va quand même dans le sens classique pour moi.
Vous aussi, Jean-François, le jazz ?
Alors, je suis plutôt musique des années 70-80, pop rock, mais tout ce qui est très musical, donc comme Pink Floyd. J'aime beaucoup Queen, Santana, que je vais voir à la Foire aux Vins d'ailleurs, donc j'en suis ravi. J'aime beaucoup la guitare, donc voilà. Vous parliez d'acoustique, justement, j'aime bien un artiste un peu plus récent français, donc M, Mathieu Chédid, que je trouve qui est un guitar hero exceptionnel. Donc voilà, un petit peu ce que j'affectionne le plus.
On s'approuvait vos choix.
Oui, bien bon, on était jeunes aussi une fois, ouais. Et puis ça tombe un peu dans l'époque.
On va parler un peu de musique de notre temps, musique du XXe siècle, parce que vous avez eu l'occasion de rencontrer Henri Dutilleux et de collaborer avec lui pour l'enregistrement de son quatuor Ainsi la nuit. Parlez-nous un peu de cette rencontre.
Alors, le quatuor de Dutilleux, c'est un vieux compagnon. Je crois que c'est un compagnon de beaucoup de quatuors depuis la création de l'œuvre en 68 ou 69, sauf erreur. En ce qui nous concerne, on a dû le monter. On avait choisi de le monter comme pièce contemporaine pour le concours d'Évian en 85. Et depuis, il ne nous a plus quittés pour des raisons d'affinité avec l'œuvre et le personnage Dutilleux, effectivement, qu'on a pas mal côtoyé, on a pu enregistrer. C'était un grand privilège de pouvoir enregistrer ce quatuor avec lui. Comme en fait, il était directeur artistique pour Erato pour l'occasion, et ça a été vraiment une expérience exceptionnelle.
Comment était-il ?
Il était d'une gentillesse infinie. Je veux dire, il était vraiment à l'opposé de tellement d'autres compositeurs qui mettent une pression énorme sur les interprètes parce qu'ils sont tellement pointilleux, tellement exigeant sur des détails finalement qui n'ont peut-être pas une si grande importance. Beaucoup de compositeurs ont de la peine à accepter une vision d'ensemble d'un interprète. Et ils sont braqués sur des détails qui sont peut-être très, très intéressants en soi, mais je veux dire, on a avec Dutilleux tout de suite passé à autre chose. Il aimait notre façon de jouer, il nous a fait confiance, et puis il nous a apporté des choses. Bien sûr, donner des pistes très, 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 très précieuses. mais sans jamais être pédant, sans jamais montrer qu'il était le Herr Professor.
Est-ce que vous pensez que lorsqu'un compositeur a écrit son œuvre et qu'il la livre aux interprètes, son œuvre ne lui appartient plus?
Ben, je crois que justement Dutilleux l'avait très bien compris, ça. Mais c'est encore une fois un des rares compositeurs, je pense, de notre temps qui avait vraiment fait ce cheminement.
Hans, vous vouliez préciser quelque chose?
Alors là, bon, j'essaie de passer en revue mes expériences avec des créations. Je fais aussi partie d'ensemble musique contemporaine à Genève, ensemble contre-chant. Et souvent, effectivement, ça doit être, je pense, pour un compositeur, ça doit être un sacré deuil. Comme pour un écrivain, pour un peintre, une fois de livrer la marchandise et plus avoir de prise après. Effectivement, il y a peut-être certains compositeurs un manque de confiance en eux aussi, en ce qu'ils ont fait. C'est pas facile. Parce qu'on ne sait pas exactement, c'était effectivement à l'interprète, on a pas mal de choses à dire après. Et puis on essaie de faire de la musique avec ça. Avec ce que le tome en compartition, justement. Et puis, il y a des compositeurs trop autoritaires, il y a des compositeurs pas assez autoritaires. On a l'impression, est-ce qu'ils entendent vraiment ce qu'ils ont écrit aussi. Il y a tous les cas de figure, mais pour moi, ça reste tout simplement, ça reste intéressant comme démarche aussi de travailler avec des gens qui écrivent la musique actuellement, parce que ça met aussi un feedback par rapport à une partition qui est vieille de 250 ans. Parce que qu'est-ce que, aussi par rapport à le texte musical par exemple, à quel point c'est définitif, à quel point tous les grands compositeurs ils ont mis beaucoup de soin pour fixer, mais la notation ça a quand même ses limites. Et puis je me rappelle une fois, on a avec notre ensemble, on a créé une pièce avec Georgi Kurtag, et on me demandait un détail, et puis il nous disait, écoutez, ça fait 60 ans que j'essaie de noter mes trucs et j'arrive toujours pas.
Alors hier, les festivaliers ont pu découvrir des œuvres d'Evgeny Kissine, des œuvres pour piano, mais aussi un quatuor à cordes. Est-ce que vous avez été à un moment donné tenté, ou peut-être que à vos moments perdus, vous prenez du papier à musique et vous écrivez?
Alors, composer. Pas du tout. Non, ça, je crois que c'est un métier qu'il faut vraiment laisser aux vrais compositeurs. Je veux dire, on peut toujours essayer de s'amuser, mais ça n'a pas de sens. Parce que c'est des études, c'est des connaissances,
c'est du talent.
C'est surtout ça.
C'est beaucoup de chemin pour trouver sa voix, pour trouver une voix parmi les millions de voix possibles. Donc je crois que c'est vraiment pas pour nous.
Je peux poser une question de novice. Alors,
bien sûr, Jean-François.
Un compositeur n'a pas besoin des interprètes pour parfaire sa composition? Je ne sais pas, parce que le compositeur du monde doit réfléchir à tout ça.
C'est une bonne question. C'est une question intéressante, parce qu'effectivement, il y a des compositeurs qui en ont besoin. Ouais. Je crois les entendre. Il y en a d'autres qui ont très bien... Il y a aussi tout, mais il y en a qui aiment avoir un feedback du musicien.
D'accord. D'ailleurs, par rapport à des compositeurs non contemporains pour nous, du passé, on se rend des fois compte, on se pose la question, on se dit, mais... S'il a rajouté cette nuance, c'est certainement, il s'est certainement rendu compte, pratiquement, qu'il devait la mettre là, parce que ça ne semble pas logique, mais voilà, il a dû l'entendre, et puis il s'est dit, ça, il faut que je renforce cette voix ou cette chose-là. Et donc, moi, je pense qu'il y a toujours eu cette confrontation à un moment où le son est là, et le compositeur doit ressentir des surprises, des fois. Donc, je pense que la correction, elle est vraiment assez courant, j'imagine.
On a aussi connu des compositeurs, surtout en Suisse, hein, on a pas mal fait de créations de compositeurs suisses, évidemment, qui ont beaucoup tripatouillé, qui ont beaucoup changé leur pièces au fur et à mesure des répétitions, du travail. Ça existe aussi. Des gens très, très peu, très, très soucieux, très inquiets, qui commençaient à douter d'une phrase, d'une forme, d'une répartition. On a vécu ça aussi.
Je pense que oui, effectivement, il y a des compositeurs qui disent « Ah, en jouant ces œuvres, tout à coup, l'un de nous dit « Mais tu ne trouves pas ou vous ne trouvez pas que ce serait peut-être pas mieux comme ça. Est-ce que cette nuance-là, comme elle est notée, est-ce que c'est vraiment... Puis souvent, le compositeur dit, ah oui, ça c'est vrai, c'est une bonne idée, je noterai, ou je vais y réfléchir. Donc, la collaboration entre les deux, c'est
super, je pense.
C'est super, c'est intéressant. Et je pense que le compositeur, il est aussi tout content de déjà que son œuvre soit jouée, et puis qu'elle prenne vie. Alors, c'est un deuil, puis en même temps, je pense que c'est un nouveau départ. Et quand ça se passe bien, c'est chouette.
Eh bien, on va vous écouter dans l'introduction du Quatuor Ainsi la nuit d'Henri Dutilleux, Nocturne, un enregistrement de 1991. Voilà, Nocturne du Quatuor Ainsi la nuit d'Henri Dutilleux par le Quatuor Ciné nominé, un enregistrement Erato qui a été réédité récemment dans un coffret hommage à Henri Dutilleux. Vous me disiez hors micro que vous aviez un festival qui a lieu tous les deux ans à Lausanne.
Oui, depuis... Ça y est, je sais plus. C'est la 10e édition.
10e environ, 10e édition.
Alors, c'est un grand privilège effectivement d'inviter des artistes avec qui on aime jouer, aussi faire des œuvres peut-être qu'on n'a pas l'occasion de faire autrement. On a aussi un orchestre de jeunes qu'on invite régulièrement. Enfin, c'est faire une programmation, c'est un grand plaisir. Effectivement, c'est toujours assez compliqué à organiser, mais disons, oui. C'est chouette de pouvoir, des fois, une thématique, des choses comme ça, qu'on puisse organiser nous-mêmes.
Et parmi vos sponsors, vous avez probablement une banque.
On a toujours la recherche d'une banque, mais non, ben on se débrouille. Mais c'est, on a une institution, notamment en Suisse, qui s'appelle la Loterie Romande, qui sans qui on pourrait, sans laquelle on pourrait, il y aurait pas d'institution, il y aurait pas de festival de culture, mais
pas de culture en Suisse romande, on pourrait dire.
C'est ça.
Ah, carrément.
Oui, carrément, parce qu'ils sont, c'est la loterie de l'État, et puis ils ont obligé toutes les gains des de mettre dans les fondations, dans le soutien de la culture et de la science.
Alors Jean-François Gwiner, vous êtes le directeur, le tout jeune d'ailleurs, de l'agence du CICS de Colmar, et le CICS est partenaire du Festival de musique de Colmar depuis un certain nombre d'années. Vous êtes aussi le partenaire de la radio Accent 4, et Dieu sait si on a besoin de sponsors pour faire vivre les manifestations culturelles ou les radios culturelles. Et ce soir, vous allez parrainer plus spécifiquement le concert qui réunira donc l'Orchestre National Philharmonique de Russie, Vladimir Spivakov et Denis Matsouyev dans un programme Beethoven et Gershwin. Quelle est la raison du choix de ce concert ?
Alors, on avait sélectionné plusieurs dates, donc le 5 et le 9 juillet également, et le 10 juillet. On avait une première partie de violon et une deuxième partie de piano, pardon, dans notre sélection. Et c'est la programmation, je crois, du festival qui nous a attribué la date du 10 juillet. Donc la fameuse soirée que vous évoquiez ce soir. Donc voilà comment on est arrivé sur cette date-là du 10 juillet. Quoi.
Comme il y a 2 ans, vous avez mal choisi la date, parce que ce soir, il y a un événement qui va réunir quelques millions de téléspectateurs.
En général, effectivement, on essaye d'éviter les week-ends dans les manifestations, parce qu'on invite, il y a à peu près 250-300 clients du CIC qui seront invités ce soir. Alors c'est vrai qu'il y a 2 ans, il y a eu le quart de finale du championnat d'Europe aussi, où on avait brillamment battu l'Allemagne d'ailleurs. Et ce soir, effectivement, donc on espère que la culture musicale prendra le dessus sur la culture sportive. Donc on verra, effectivement, ce que ça donne. J'espère que le résultat sera le même, d'ailleurs, qu'il y a 2 ans aussi pour les footeux.
Vous aussi, je crois que vous êtes un grand sportif, non ? Vous avez une discipline
Alors, je fais du tennis de table et un peu de tennis, de sport de raquette de manière générale. Grand sportif, peut-être pas, mais j'aime bien faire du sport, effectivement. Ouais.
Alors ce soir, vous aurez une tablette pour suivre...
On va suivre un petit peu quand même les informations pour se tenir au courant, c'est vrai que là...
Jean-François, vous pouvez nous rappeler un petit peu le rôle du CIC dans l'accès à la culture et à la musique plus particulièrement.
Alors, CIC, sur un point de vue national, essaye d'apporter son soutien aux jeunes talents. Alors on est partenaire financier exclusif des Victoires de la musique classique. Depuis plusieurs années, nous participons, nous organisons plusieurs concerts, une trentaine de concerts par an. Nous sommes également partenaire fondateur du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. D'ailleurs, cette année, le CIC a offert des instruments aux 4 jeunes musiciens qui ont formé le Quatuor Aix. Donc ça, c'est à l'échelon national. D'un point de vue plutôt local, hein, puisque moi je représente le CIC Est, puisque les banques du CIC sont organisées en région. Mais effectivement, on participe un peu plus localement au Festival de Colmar, à l'Opéra du Rhin, au Festival de Besançon, les flâneries musicales à Reims. Donc voilà notre soutien qu'on apporte de manière générale. Également aussi d'un point de vue culture patrimoniale, aussi on essaye d'apporter notre soutien en région. Donc on a participé à la restauration de la cathédrale de Meaux, de la sauvegarde de la tour Saint-Antoine à Besançon, et ainsi de suite. Voilà ce qu'on essaye de faire, puisque il paraît important pour nous de permettre à plusieurs personnes d'accéder à la culture.
Et vous serez donc ce soir dans cette salle de l'église Saint-Mathieu pour ce concert qui va réunir donc Denis Matsouyev, qui aurait pu être notre invité aujourd'hui, Vladimir Spivakov, l'Orchestre National Philharmonique de Russie, Beethoven, Gershwin. Entre Beethoven et Gershwin, lequel des deux ?
Question.
La Rhapsodie in Blue ou le troisième concerto ?
Alors, je serais plutôt Beethoven, mais...
Et ce soir, vous serez... On va demander à nos amis suisses, ils ont un avis neutre, je suppose. C'est la tradition de la Suisse, d'ailleurs. La Belgique ou la France ?
Ah ben, comme petite nation, on serait assez content que la Belgique remporte ce match. Mais cela dit, si la France joue bien, on l'accepte aussi.
Un avis unanime.
Ah, c'est vrai. Oui, ça va être dur si... Si on est dans un bistrot ce soir, si on est vraiment pour la Belgique, on aura peut-être des ennuis avec les.
Oui. Alors les Alsaciens aiment beaucoup les Belges, c'est vrai.
Ah, c'est très bien. Ah oui, non mais c'est vrai.
Bien, bon, on va écouter un extrait de la Rhapsody in Blue que Denis Matsouyev a enregistré avec l'Orchestre Philharmonique de New York et Alan Gilbert. Un extrait de la Rhapsody in Blue de George Gershwin, les interprètes Denis Matsouyev, Alan Gilbert et les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de New York. C'est un enregistrement réalisé en octobre 2012 à New York. Eh bien, un grand merci à vous d'avoir participé à cette émission. Bien, bon concert avec Sofia Gubaldanomova. Et puis, merci Jean-François d'être passé à ce micro d'Accent 4. Et puis, vous revenez l'année prochaine.
Avec plaisir.
Voilà. Quant à moi, eh bien, on ne s'entendra pas ni demain ni jeudi, mais vendredi. Et je recevrai avec Daniel, le jeune pianiste Georges Lee. Et merci à Maxime, assisté de Yamina, d'avoir réalisé cette émission. Bon festival à toutes et à tous. Merci.
Opus, Festival international de musique de Colmar, hommage à Evgeny Kissin. Une émission d'Accent 4, en partenariat avec le Festival international de musique de Colmar et avec le soutien du CICS d'Arpège Armand Meyer et de l'hôtel Le Maréchal de Colmar.